le père Marc Rastoin, qui est jésuite, professeur aux facultés Loyola à Paris et membre de l'Institut biblique pontifical. Voilà. En fait, Marc est un passionné du judaïsme et je crois que nous allons le ressentir très vivement ce matin. D'après ce que j'ai compris, Marc a commencé à lire l'hébreu à l'âge de 12 ans et voilà, il n'a pas quitté en fait l'hébreu et la Bible depuis ce temps mémorable.
À Boulogne-Billancourt.
Voilà. Marc a été responsable en fait du deuxième cycle à l'Institut Loyola. Maintenant, vous êtes responsable du.
C'est fini.
Voilà. Mais vous avez été quand même responsable du troisième cycle. C'est pas rien. Pendant 7 ans, vous avez un tropisme, une appétence particulière pour Saint Paul, puisque vous avez fait votre thèse sous la direction de Jean-Noël Aletti. Sur Saint-Paul, donc beaucoup de questions autour de Paul, et vous êtes un ami personnel de Daniel Boyarin,
que je dois voir ce soir,
que vous verrez ce soir, et vous pourrez partager peut-être avec lui certaines des questions qui viendront de la salle, j'en suis convaincu, sur ce thème vraiment passionnant des relations entre les chrétiens et les juifs. Peut-être d'ailleurs pourrez-nous vous dire, concernant Daniel Boyarin, à un moment, j'ai ouï dire qu'il avait en fait été tenté de rejoindre le christianisme, et peut-être que ces échanges avec lui, on nourrit aussi votre compréhension et votre intérêt pour tout ce qui touche autour du judaïsme et du christianisme. Je n'en dis pas plus. Marc va se présenter encore mieux que je ne pourrais le faire. Je lui laisse donc la parole.
Merci beaucoup. Voilà, je pense que si je parle dans la carafe, on va y arriver. Oui, donc j'ai été opéré, donc je n'ai qu'une main depuis mercredi, donc voilà. Alors, des petites remarques préalables. Alors d'abord, je me permets une page de publicité. Au cas où vous auriez des petits-enfants qui sont, ou des enfants, fans de séries télé, j'ai sorti au mois d'octobre le premier guide catho des séries télé, 100 séries télé analysées d'un point de vue de bibliste, de théologien. Donc je parle, j'ai des amis profanes, on va dire, qui m'ont dit « Pourquoi tu n'as pas dit guide des séries ?» Je dis « Non, c'est quand même très catho mon truc, c'est un regard très chrétien. Voilà, je parle, je cite les évangiles, enfin bon, c'est un guide catho, voilà. Aux éditions de l'Emmanuel, voilà, c'est bien, c'est confessant. » Sachant que vous avez, si vous ne l'avez pas lu, lisez cette magnifique lettre du pape François sur la littérature. En tout cas, les séries sont devenues le média culturel dominant pour les moins de 30 ans, clairement, de ce que je vois des gens que je vois en préparation au mariage. Donc ça valait le coup de présenter un regard chrétien là-dessus. Alors, petit préalable. Donc tout d'abord, effectivement, on va entendre parler, je vais citer plusieurs fois Daniel Boyarin, il se trouve qu'il est à Paris pour 5 jours, et que jeudi matin, au séminaire à la Sorbonne, avec David Lemler, qui vient de sortir il y a 15 jours « L'invention du judaïsme » aux éditions Albin Michel, concomitant à la sortie en français, pour une fois je n'ai pas fait la traduction, du livre de Daniel qui s'appelle « Judaïsme, généalogie d'une notion moderne ». Je vais revenir un peu sur l'enjeu du débat. Voilà, donc on va dire que c'est une question qui... travail. Bon, David Lemler, c'est un petit peu le meilleur du judaïsme universitaire français. Il est aussi à la Sorbonne. J'ai collaboré avec lui dans un projet dont je me suis finalement retiré, mais où il continue avec Barbara Cassin de l'Académie française pour un dictionnaire des intraduisibles des monothéismes. Un très beau projet sur 4-5 ans. Voilà, c'est plutôt un spécialiste du judaïsme du Moyen-Âge. Alors, premier, en forme de boutade. Il y a eu pendant 20 ans un cours à l'Université grégorienne de Rome sur les évangiles synoptiques fait par le père Roland Méné, qui est maintenant à Lyon, à la retraite. Et il commence son cours en disant « À propos, vous savez ce que c'est un juif ?» Donc, question a l'air complètement simple et banale, je vais y revenir, mais elle est évidemment très difficile, y compris d'un point de vue juif. Et il répond « Oh, ben, c'est très simple !» C'est quelqu'un, quand vous lui racontez une histoire, il la connaît déjà, mais sous une autre forme. Et donc, vous avez le phénomène synoptique. C'est quand même assez bien vu. Donc, on est sur une question, j'allais dire, très débattue aujourd'hui. Alors, juste pour dire un mot sur ce débat, quelle est la thèse un peu de Daniel que David ne suit pas complètement? Déjà, judaïsme, c'est un isme. Christianisme, judaïsme, islamisme, c'est un isme. C'est une doctrine, un système, etc. Et Daniel, alors là, à mon avis, c'est irréfutable, observe que entre, disons, le temps de Jésus et le 18e, fin 18e, début 19e, jamais les Juifs ne parlent d'eux en parlant du judaïsme. C'est un terme employé par les chrétiens. Et Daniel remonte au 4e siècle, la grande époque des pères de l'Église, 4e, 5e siècle, où, au fond, les pères de l'Église, les grands-pères de l'Église, Ambroise, Augustin, etc., construisent le judaïsme. Ben, le judaïsme, c'est tout ce qu'on ne doit pas être. Enfin, c'est tout ce que n'est pas le christianisme, c'est tout ce qu'il ne faut pas être, en fait. Ça, c'est le judaïsme. Donc, c'est légaliste, c'est rituel, on a encore des homélies là-dessus. Donc, c'est tout ce qu'il ne faut pas être, le judaïsme. Donc, on construit l'autre, l'autre du chrétien, c'est le juif, et c'est, par définition, ce qu'il ne faut pas être. Mais les juifs n'utilisent pas tellement le terme. Alors, le mot « judaïsmos » est dans la Septante, hein, dans l'Ivre des Maccabées, il est aussi dans Paul, au Galates, plutôt comme système de règles propres aux judéens que comme système théologique, on va dire, ou religion. Alors, tout le débat sur le côté inapproprié du mot judaïsme, on peut le retrouver sur le mot religion. Qu'est-ce qu'une religion? Et au fond, de découvrir, donc il y a les travaux de Daniel Dubuisson, il y a d'autres travaux depuis une trentaine d'années, au fond, le concept de religion est un concept également très moderne. Quand on dit, bon, là je suis en train de corriger un catéchisme, mais, bon, je ne sais pas, les Romains avaient un système politique et, les Romains ont un système politico-religieux, c'est-à-dire que l'Empire romain, ça fonctionne aussi avec une religion, qu'on ne peut pas séparer du politique. Voilà, nous on pense qu'on a des catégories claires, il y a la religion, puis il y a la politique, puis il ne faut pas mélanger surtout. Oui, mais ça c'est des catégories anachroniques, on ne raisonne pas comme ça dans l'Antiquité. Chaque peuple, chaque communauté a ses règles, a ses cultes, et tout ça fait partie du système juridico-politico-religieux. Voilà. Alors, j'ai, juste pour vous mettre un peu la puce à l'oreille, j'ai une discussion avec un ami juif. Bon, alors, vous allez me dire que vous ne savez pas grand-chose sur le judaïsme, c'est pas vrai, je suis sûr que vous savez plein de choses. Enfin, il y a un truc que tout le monde est censé savoir, c'est le judaïsme, ça vient par la mer. Et on se dit, mais c'est comment, pourquoi, que quoi, c'est bizarre. Bon, alors, puisque dans la Bible, clairement pas. On est d'accord, dans la Bible, c'est une transmission paternelle, normale, comme dans toutes les sociétés patriarcales qui se respectent. Bon. Alors, j'ai un ami juif, Hervé Eli Bokobza, c'est un ancien Lubavitch, il est de Boulogne-Billancourt, on est de la même génération, il a fait la yeshiva de Brunois. Un type assez extraordinaire qui est en rupture de banc avec le judaïsme orthodoxe, qui a sorti il y a 3 ans une somme de 700 pages sur Jésus à la lumière des sources juives. Je vous recommande, un très bon livre qui est sorti, je ne me souviens plus de l'éditeur, où il analyse vraiment avec sa culture de juifs orthodoxes formés par les yeshivas, les évangiles. Absolument passionnant. En un peu plus compliqué, ce qu'a fait Philippe Haddad ou ce que fait Philippe Haddad aussi. Alors, il me dit ceci, enfin, il mettait ceci. Il est une idée reçue selon laquelle le judaïsme serait matrilinéaire et qu'il se transmettrait par la mer. Certains vont jusqu'à ajouter que cela n'a pas toujours été ainsi, qu'à l'origine, la judaïté était transmise par le père. Alors, je pense que cet énoncé est totalement faux. Le judaïsme, au risque de choquer, n'a jamais été matrilinéaire, mais patrilinéaire. La preuve, le fils d'un Cohen ou d'un Lévi est Cohen ou Lévi par le père. Par le père, pas par la mer. Maïmonide, Mishneh Torah, 19-15. C'est vrai ça. Un Cohen, il est Cohen parce que son père s'appelle Cohen. On ne va jamais dire, ah oui, mais ta mère, elle s'appelle Ben Choukroun, donc tu n'es pas Cohen. Ben, si son père est Cohen, il est Cohen. Pourquoi alors dit-on qu'on est juif par la mère? Tout simplement parce que selon la halakha, la filiation juive n'est considérée que si elle est halakhiquement légitime. Alors, la halakha, ça veut dire le chemin, c'est halakh, c'est une manière de dire la loi juive. Hein. Je vais revenir sur ce terme. Bon. Que si elle est, on va dire, légalement légitime. Cela ne dépend pas d'un test ADN. Puisque le mariage mixte n'est pas reconnu, Le père non-juif n'est pas père, n'a pas le statut de père. Le juif qui épouse un goy, il ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. C'est pourquoi, si la mère est juive, en l'absence d'un père reconnu, l'enfant l'est aussi. Mais dans le cadre d'une union légitime, selon l'Halakha, un mariage entre juifs, l'enfant est juif par le père. Il cite encore une autorité, Maïmonide, Kedushin 3.12, bon, donc Mishnah même, pardon, Mishnah, oui, donc le Talmud. Voilà, donc ça nous bouscule un peu parce qu'on pensait que c'était un des piliers sur lequel on pouvait s'appuyer. En fait, c'est un peu plus complexe que ça. Alors, après, comme il est un peu en rupture de banc avec le consistoire, bon, c'est un peu un prêtre catholique en rupture de banc avec le Vatican ou avec son évêque. Bon. Au passage, l'idée saugrenue du consistoire de France, du consistoire, des orthodoxes en général, de vérifier la ketouba. La ketouba, ça va, la ketouba, de Katav écrit, hein, qu'on qualifie à tort en français d'acte de mariage. Donc, la ketouba, c'est un papier qui est donné à un couple juif après le mariage, qui certifie qu'ils sont mariés. Alors il dit, on qualifie en français, on dit en général acte de mariage. On devrait plutôt, là c'est aussi très intéressant pour comprendre le statut du mariage, je vais y revenir, le définir comme un acte d'engagement de prestation compensatoire en cas de répudiation. C'est ça que c'est techniquement. C'est-à-dire, vous dites, si je répudie ma femme, je lui donnerai X somme, X. Donc, l'idée de vérifier la ketouba pour attester la judéité d'une personne ne repose sur aucune base légale. La présomption de judéité devrait suffire s'il n'existe aucune raison d'en douter a priori. Vous avez tous vu la vérité, si je mens quand même, hein. Bon, donc, quand le couple va trouver le rabbin, hein, bon, le rabbin dit, est-ce que vous avez la ketouba de vos parents? Il dit à Anconina. Ah, c'était en Algérie, tout a brûlé. Bon, tout a brûlé. Donc, vous voyez, c'est exactement ce que dit Hervé Eli, là. Normalement, le rabbin n'a pas à douter de la judéité de la personne. Il vient, bon, spontanément. Tout a brûlé. Alors, il dit, bon, bah, il fait comme nous. Moi, j'ai le cas pour un mariage actuellement. Si vous avez des Russes ou des Biélorusses, l'Église orthodoxe ne donne pas facilement des certificats de baptême. Hein. Quand je dis pas facilement, vous pouvez toujours courir. Donc, le bureau de Paris, là, le responsable du bureau de Paris m'a dit, non, mais... On fonctionne avec une déclaration sur l'honneur de la fiancée, en l'occurrence, comme quoi elle est bien baptisée orthodoxe et qu'elle n'est pas mariée, et on avance, parce que sinon, on ne va pas pouvoir les marier. Donc, à un moment, il faut faire confiance un peu, quand même. On fait confiance. Donc, il dit, bon, tout d'abord, alors, le rabbin dit, fort logiquement, mais est-ce que vous avez des témoins? Une tante, une marraine, deux frères de vos parents qui peuvent dire, j'étais au mariage à Constantine le 18 avril 1956, Ah, il dit non, ça va être pas. Il dit non, mais mon père, ça va pas être possible. Alors, quand il dit mon père, vous vous souvenez, là, le rabbin comprend que le gars est catholique et qu'il y a une entourloupe dès le départ. Voilà, donc juste, j'avais noté ça avec Hervé Eli, cette petite astuce que c'est pas si simple. Alors, ce que je me propose maintenant de faire, tout simplement, c'est de prendre la feuille, quelques éléments de présentation du judaïsme où il y a des choses basiques et de commenter un petit peu, de développer un petit peu en commentant. Alors. Nous avons un seul jésuite israélien qui s'appelle David Neuhaus, qui a été ordonné en 2000, le 8 septembre 2000 à Jérusalem. Mes parents y étaient, moi je n'avais pas pu y aller, virgule, et qui a été vicaire patriarcal des chrétiens de langue, des catholiques de langue hébraïque pendant 10 ans, qui parle arabe aussi. Donc il symbolise le destin juif du XXe siècle. Il est juif allemand d'origine, établi en Afrique. Ses parents sont établis en Afrique du Sud, donc il a passeport sud-africain de naissance, passeport allemand parce que l'Allemagne donne le passeport allemand à tous les juifs d'origine allemande dans le monde, hein, si vous le demandez. Ça fait partie des lois de réparation de l'après-guerre. Et puis, il a fait son alliée en Israël, donc il a le passeport israélien, il parle parfaitement hébreu moderne. Alors, il dit, quand je parle à des chrétiens, 10 secondes, quand je parle à des chrétiens, je leur dis la première chose que je leur dis, et je dis répétez, gravez. Vous pensez que le judaïsme est basé, c'est une religion de l'Ancien Testament? Non, le judaïsme est la religion du Talmud. Vous soulignez, vous encadrez. Vous avez compris ça, vous avez gagné votre journée. Hein? Donc, c'est le Talmud, c'est-à-dire la codification des lois juives faites entre le, allez, 2e, 3e et 6e siècle, en deux endroits, en Babylonie, Talmud de Babylone, et en terre d'Israël, le Talmud de Jérusalem. Mais il se trouve que, et je vais dire un peu pourquoi, seul le Talmud de Babylone fait foi, c'est pourquoi il est le plus transmis. Il y a des trous dans le Talmud de Jérusalem, la transmission est beaucoup moins bonne. Voilà. Donc, je vais y revenir parce qu'un des débats qu'il y a depuis une quarantaine d'années maintenant, c'est de savoir est-ce que, alors je vais par facilité employer le terme judaïsme, est-ce que le judaïsme rabbinique est bien l'héritier du judaïsme pharisien et du judaïsme d'avant la destruction du temple, ou est-ce que c'est une religion, entre guillemets encore, qui est née après, et du coup on arrive à la thèse de Alan Segal, hein, judaïsme et christianisme sont deux religions jumelles, nées à peu près au même moment, comme héritière de la religion biblique. Ce qui est une position défendable d'un point de vue historique, un peu ambiguë d'un point de vue théologique. J'ai une petite polémique personnelle avec André Paul, bon, grand exégète français par ailleurs, qui arrive sur ses 108 ou je crois, 109 ans, va même jusqu'à dire, mais Boyarin l'a dit dans d'autres sphères, hein, que le judaïsme est postérieur au christianisme. Ils veulent dire par là le judaïsme rabbinique. Donc, le monde romain devenu chrétien et le monde juif rabbinique ont éprouvé la même pulsion de faire un compendium légal au VIe siècle. Ça a donné dans le monde chrétien le Codex de Justinien, qui est également un recueil de toutes les lois romaines revues par les chrétiens, hein, entre Justinien, donc on est dans les années 530, et c'est à peu près le moment où les rabbins finalisent, on va dire, la première édition du Talmud. Donc, il y a un moment là de l'histoire, hein, entre le IVe et le VIe siècle, où on éprouve le besoin de codifier les lois. En tout cas, le point majeur, c'est le judaïsme d'aujourd'hui, les juifs que vous connaissez, les juifs religieux, c'est la religion du Talmud. Je l'illustre toujours par un point très important de droit conjugal, par un film que je vous recommande, je suis très cinéma aussi, qui s'appelle Kadosh, un film de Amos Gitai, écrit par Eliette Abekassi, la fille de mon maître Armand Abekassi quand j'étais gamin, grand monsieur de la communauté juive française, professeur de philosophie juive à Bordeaux, qui a écrit beaucoup de livres très intéressants. Eliette a fait le scénario. Donc on est dans le monde juif religieux à Jérusalem. On suit deux couples orthodoxes. C'est des mariages arrangés, en tout cas vite faits. Il y a un couple très heureux, ils s'aiment beaucoup, beaucoup. Et un couple malheureux, où la femme a un mari violent, pas respectueux, et elle est de plus en plus tentée de partir. Et tandis que l'autre couple est très très heureux, mais n'a pas d'enfant. Alors, le père de cet homme, qui est rabbin aussi, lui dit, bon, ça fait 6 mois, 1 an que tu gagnes du temps, le Talmud est très clair, si au bout de 10 ans de mariage, il n'y a pas d'enfant, il faut divorcer, répudier la première femme et prendre une autre femme. Pourquoi ? Parce que le premier commandement pour un homme, c'est d'avoir un fils. Dans le fameux dilemme d'Augustin, le mariage, c'est prolès et fides, hein, c'est les enfants et la fidélité. Dans le judaïsme, c'est vraiment très fort, c'est les enfants qui justifient le mariage. Pas d'enfants, quelque part, il y a un problème. Le Talmud, plus exactement, dit qu'il faut prendre une deuxième femme, puisque la polygamie est autorisée. Ben, bibliquement, il n'y a pas trop de raisons pour l'interdire. Sauf que, pour les juifs ashkénazes, depuis Rabbi Gershom en 1080, la lumière de la diaspora de la ville de Mayence, en Allemagne, à cause du scandale chez les chrétiens, la polygamie a été interdite chez les juifs européens, on va dire, à partir du XIe siècle. Donc, tu dois répudier ta femme en prendre une seconde. Le fils ne veut pas, il aime sa femme, il ne veut pas la répudier. Et il dit à son père, on est dans la synagogue, « Mais père, Abraham, le père des croyants, le premier juif, le premier qui est passé de l'idolâtrie au culte du Dieu unique, enfin, Abraham, c'est Abraham, enfin, les chrétiens, vous avez ça dans Paul, vous avez ça chez les musulmans, enfin, c'est Abraham, quoi, non, c'est pas mal comme exemple. Donc, à quel âge Abraham a eu son Isaac et Sarah, hein? Bon, 99, 100, etc., bon, vous savez, Sarah rigole, mon maître est un vieillard, mon mari est un vieillard, moi-même, j'atteins 99 ans, les enfants, ça va être un peu compliqué quand même, bon, ce qui paraît un argument assez fort. Mais le point, c'est que le fils a un argument qui, nous, comme chrétiens, nous paraît bibliquement massif, c'est-à-dire toute l'histoire d'Abraham et Sarah, c'est justement que c'est de sa femme légitime, et pas de Hagar, pas d'une servante, pas de quelqu'un d'autre qui doit avoir un fils, mais bien de sa femme. Et son père répond, oui, mais le Talmud dit que, toc toc, citation. Donc le Talmud l'emporte sur l'Ancien Testament. En pratique, c'est ça qu'il faut retenir. Voilà, un, le Talmud. Deux, alors, le peuple juif est un peuple, en un certain sens, comme les autres peuples. Je veux dire par là que il a un rapport à une terre, on y reviendra sans doute dans l'après-midi, une langue, des éléments culturels, bon, état, territoire, langue, terre, gouvernement pendant des siècles, mais évidemment il y a eu l'exil, mais en tout cas voilà. Donc si on peut comparer par certains égards, le peuple judéen, hébreu, disons comme ça pour le moment, au peuple égyptien, au peuple ammonite, au peuple aux arabes. Et en même temps, évidemment, dès le départ un peu, il est un peuple particulier, hein, indissolublement communauté de destin culturel, comme tout peuple, et communauté confessante, communauté religieuse, communauté croyante. Donc, est-ce que le judaïsme est une religion ou est-ce que c'est un peuple? Les deux, mon général. Sachant qu'au long de l'histoire, depuis 2200 ans, vous avez eu une variation du curseur où on met le curseur entre la dimension nationale, ethnique, généalogique et la dimension confessante. Pour la dimension ethnique, généalogique, vous le savez tous, qu'est-ce qui fait d'abord que quelqu'un va vous dire « je suis juif » ? Ben, mes parents sont juifs. Donc le gars va dire « non, moi perso, je suis athée, hein, complètement, hein, mais je suis juif ». Donc un athée juif, ce n'est pas contradictoire. Bon, le gars qui vous dit « moi je suis chrétien, mais en fait je suis athée », alors il dit « là mon problème, mon toto, t'as un léger problème ». Un chrétien athée, c'est antinomique dans les termes, c'est juste pas possible. Un français athée, il n'y a pas de problème, hein. Un grec, un bulgare, il n'y a pas de problème. Mais un chrétien athée, c'est pas possible parce que chrétien, c'est confessant. Mais un juif athée, c'est possible. Donc, première réponse. Deuxième réponse, quelqu'un vous dit, c'est en train de se développer beaucoup en Afrique noire actuellement, il y a de nouvelles communautés juives maintenant, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Zimbabwe, en Ouganda, qui marchent du feu de Dieu, hein, depuis 20 ans, en Inde, au Mizoram, bon. Donc vous voyez des gens tout noirs, hein, des Ivoiriens, quoi, des Camerounais. Moi, je suis juif. Comment t'es juif ? Ben, je me suis converti, enfin, on s'est converti. Donc, on ne se convertit pas à la francité. On est naturalisé citoyen français. Mais on peut se convertir au judaïsme. Et si votre conversion est validée par une autorité religieuse, un consistoire orthodoxe en France ou aux États-Unis, vous pouvez immigrer en Israël. Sur le fait que, alors que vos parents ne sont pas juifs, d'accord ? Donc voilà, donc ça c'est la dimension religieuse. Donc, il y a des conversions au judaïsme. Il y a certainement en France, j'avais fait les calculs il y a 10 ans, plus de gens qui se convertissaient au judaïsme, étant d'origine chrétienne, que de juifs se convertissant au christianisme. Et par ailleurs, alors il y a un grand débat sur la période du Christ, où en étaient les conversions. Il y a une école qui dit non, non, il n'y avait pas vraiment de conversion, en tout cas, il n'y avait pas de prosélytisme. Et une autre école dont je suis qui dit les Juifs n'ont pas pu passer de 50 000 personnes dans toute la Judée en moins 180 à 6 millions au temps du Christ par naissance naturelle. Ça ne marche pas. Même à 22 enfants par femme, on n'y arrive pas. Donc, ou que le tiers de la population de Chypre ou du delta d'Égypte était juive en l'an 80, ça s'est fait essentiellement par conversion. C'est d'ailleurs pour ça que les actes des apôtres nous montrent les apôtres prêchant dans les synagogues en visant en fait les craignants Dieu. En fait, au temps de Jésus ou de Paul, voilà, moi je viens, je suis Paul, je viens dans la synagogue de Saint Thomas d'Aquin, enfin la synagogue d'Aquin, là, voilà, ici, et j'ai face à moi votre groupe. Eh bien, j'ai la moitié qui sont des juifs de naissance et l'autre moitié qui sont juste des sympathisants, des craignants de Dieu. Et c'est à eux que je vais parler en priorité. Alors, mon troisième point, justement, est sur cette affaire du judaïsme rabbinique. Vous savez qu'il y avait une grande diversité de courants juifs au temps du Christ. On les connaît tous, hein, évidemment, les Sadducéens autour du Temple, sur lequel, en fait, on ne sait pas grand-chose, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Flavius Joseph, donc l'historien juif du 1er siècle, nous donne quelques éléments. On ne sait pas notamment quels étaient vraiment leurs soutiens dans les familles. Enfin, on parle des familles des grands prêtres. Enfin, une religion ne survit pas uniquement avec 100 cardinaux au Vatican. Ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait des gens qui soutiennent. Bon. Évidemment, les pharisiens, Et là, la grande question, sur laquelle je trouve on n'y voit pas complètement clair, donc je connais la position de Daniel Boyarin, d'Annette Yoshikori, d'Alan Segal, de d'autres, est-ce que, toi de plus, voilà la question à 1000 dollars, est-ce que les pharisiens sont les ancêtres du judaïsme rabbinique, oui ou non ? Argument pour, ce sont ceux qui sont les plus stricts dans l'application de la loi juive. En gros, le Talmud est très strict dans l'application des lois. Hein, le judaïsme a multiplié les commandements à pratiquer au quotidien. Certainement, ça s'est développé entre l'époque de Jésus et le VIe siècle. Donc, on pourrait dire, ben, donc spontanément, c'est les continuateurs. Sauf que, par exemple, le Talmud est très sévère. D'abord, ne mentionne pas les pharisiens, et les 4-5 fois où il les mentionne, c'est pour les critiquer. Donc, si ce sont leurs descendants ou leurs fils, c'est un peu curieux. Et il les critique pour avoir divisé Israël. Le grand argument du Talmud, c'est que pourquoi il y a eu la destruction du temple de Jérusalem ? Donc, les chrétiens ont longtemps une réponse, c'est parce que les juifs ont tué Jésus, entre guillemets, pour aller vite, en tout cas les sadducéens. Les juifs n'ont pas cet argument. Eux, ils disent, c'est parce que nous étions divisés et qu'il y avait, selon la belle expression du Talmud, de la haine gratuite entre juifs. Sinatrinam. Et donc, pour paraphraser quelqu'un que vous connaissez, hein, une religion divisée contre elle-même tombera. Donc, c'est un regard sur l'unité. On peut réfléchir à la question qu'on a aujourd'hui sur l'unité de l'Église, avec les intégristes, les traditionalistes, comment l'Église peut se maintenir et comment on se traite entre catholiques. On est théoriquement tous catholiques. Bon, les juifs à l'époque, c'est très compliqué. Il y a évidemment les Esséniens. Alors, comme ils ne sont plus là, on les oublie. Alors, on a redécouvert avec Qumran, ça a été la grande découverte des 100 dernières années, les manuscrits de Qumran. Alors, est-ce que c'était une communauté, juste une petite communauté de moines, entre guillemets, on emploie des termes chrétiens, parce que c'est les dominicains qui fouillaient à Qumran, bon, du luberlu un peu fanatique dans un coin, ou est-ce que c'était, ce qu'on dirait plutôt aujourd'hui, en fait, un courant assez puissant, avec beaucoup de laïcs, de familles, on va dire, normales, sympathisants du mouvement, donc déjà critiques du temple, et très eschatologiques, très pieux, et on pense que beaucoup d'Esséniens, en fait, ont dû devenir chrétiens après 70, après la destruction de Qumran. Il y a évidemment les baptistes, le courant baptiste qui va exister très longtemps. Beaucoup de baptistes, certainement, vont devenir chrétiens, mais on a des traces de communautés baptistes au Proche-Orient pendant des siècles. On dit même, j'avais lu, que jusqu'au 18e, 19e, en Irak, on trouve des communautés baptistes. Voilà, donc il y a une diversité du judaïsme, une puissance sociale du judaïsme qu'on a du mal à mesurer aujourd'hui, parce que en fait en Europe notamment on a un imaginaire qui est marqué par le Moyen-Âge et les ghettos. Donc les juifs c'est des petites communautés très soudées, ils sont dans un quartier, ils sont repliés, ils sortent pas beaucoup, ils ont pas beaucoup de contact avec l'extérieur. Alors là il faut changer d'univers. Quand on parle dans le judaïsme du temps de Jésus, il y a notamment le judaïsme hellénistique auquel appartient saint Paul. Donc, c'est 3 millions de personnes, c'est des juifs de langue grecque, très puissants à Alexandrie, à Antioche. Bon, ils ont 2 quartiers sur 5 à Alexandrie. Vous connaissez tous le nom de Philon d'Alexandrie, leur grand philosophe, dont le neveu va se rallier aux Romains et être le chef d'état-major de l'armée romaine lors du siège de Jérusalem. Ça, c'est un élément que beaucoup de juifs ne savent pas, que le chef d'état-major des Romains lors du siège Tiberius Julius Alexander, le neveu de Philon, est un juif qui a abandonné le judaïsme et qui est un juif de naissance. Voilà. Et une des questions qu'on a dans le dialogue, le pape Benoît XVI a écrit là-dessus, pape François, on va la formuler comme ça. Le judaïsme a évolué. Est-ce que nous, les chrétiens, on va dire, notre racine, notre base, c'est le judaïsme biblique, c'est le judaïsme du temps du Christ, ou est-ce que c'est aussi le judaïsme d'aujourd'hui et les ressources spirituelles juives qui ont été développées entre Jésus et aujourd'hui ? Soit c'est une affaire purement archéologique, ou théologique, mais en tout cas dans le passé. Et qu'est-ce que ça veut dire que l'Esprit-Saint ou Dieu a voulu que des choses bonnes se produisent ou existent dans le judaïsme entre Jésus et aujourd'hui, qui nous peuvent nous apprendre quelque chose en tant que chrétiens ? Vous voyez la différence ? Est-ce que c'est uniquement une affaire du passé, une affaire de Racine? Et dans ce cas-là, on n'a pas, au fond, on n'a pas tellement besoin de juifs vivants, ou, on y reviendra dans l'après-midi, ou le judaïsme vivant est également une bénédiction et une ressource pour les chrétiens aujourd'hui. Parce que la conséquence, ça veut dire que Dieu a continué à donner des choses, à donner des bénédictions, à donner des biens aux juifs non chrétiens depuis Jésus, et que nous, nous pouvons en bénéficier. Ça, c'est une des grandes questions qu'on a. Alors, le point se finissait par un point, ici. De l'époque du Talmud, en gros, du 6e siècle jusqu'à la Révolution française, l'essentiel, 90% du monde juif, survit dans le cadre talmudique et rabbinique. Ce que certains appellent un petit miracle. Comment 42 générations de juifs se sont soumis aux règles très strictes des rabbins, sans autorité politique pour les y contraindre, par simple dévotion, par simple volonté religieuse. Et puis arrive un petit truc qu'on connaît bien en France qui s'appelle la Révolution française. Alors là, les ennuis commencent parce qu'on décide d'accorder aux juifs, pour la première fois dans l'histoire européenne, les mêmes droits qu'aux chrétiens, qui sont d'ailleurs, qui deviennent des citoyens. Alors, ça va se généraliser dans toute l'Europe et ça va permettre à beaucoup de juifs d'échapper aux rabbins. Et donc de devenir, alors rien du tout, se convertir au christianisme ou d'être des juifs laïcs. Face à cette hémorragie, la synagogue va réagir avec des rabbins, notamment allemands, Samson Raphaël Hirsch au 19e, qui vont créer l'orthodoxie ou la néo-orthodoxie. Sublime paradoxe de l'histoire, parce que l'orthodoxia, c'est un terme totalement chrétien, c'est l'orthodoxia, c'est le penser juste, alors que le judaïsme a toujours mis en avant son orthopraxie. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu penses, c'est ce que tu fais. Alors, il y a plusieurs histoires qui illustrent ça. Vous avez Hannah Arendt qui va trouver son rabbin quand elle a 13 ans ou 14 ans, disant, voilà, j'ai un problème, je ne crois plus en Dieu. Alors, le rabbin lui dit, non, mais ça, ce n'est pas grave. Mais est-ce que tu fais les lois de Nida? Est-ce que tu fais Shabbat? Est-ce que tu vas les... Oui, bon, ça va. Ce n'est pas grave. L'important, c'est de faire ce qu'il faut faire. Donc, il y a trois grands courants maintenant dans le judaïsme, en gros dans le monde, qui correspondent, là aussi c'est ironique, aux trois grandes confessions chrétiennes. Donc, les orthodoxes, juifs, donc peut-être presque un million maintenant en Israël et 1 million aux États-Unis, on ne change rien. Donc, il n'y a pas eu Vatican II, il n'y a pas eu le XXe siècle. Enfin, la liturgie est en hébreu, le Talmud reste en valeur. Alors, je dis ça... Ça réfléchit, il y a des adaptations. Enfin, en gros, on dit on ne change rien. Ensuite, il y a les libéraux, que les anglophones appellent les réformés, les reformed, qui sont en gros comme nos protestants. On peut faire le culte en anglais, on peut avoir des femmes rabbins, on peut marier les homosexuels, enfin, il n'y a pas de problème. Donc, ça, c'est les libéraux. Et puis, au milieu, il y a les conservatives, ou les massortis, les traditionnels en France. Alors, conservative en anglais, en français, on dit massortie, c'est-à-dire c'est le mot hébreu, massora, tradition. Les traditionnels, pas d'autres mots, qui correspond un peu à l'Église catholique. C'est pourquoi j'ai une collègue au Centre Sèvres, enfin à Loyola, Geneviève Comeau, qui a fait sa thèse il y a 30 ans à New York sur les analogies entre le mouvement conservatif et Vatican II. Parce qu'au fond, ce qu'a fait Vatican II, c'est ce qu'ont voulu faire les conservatifs. C'est-à-dire, on garde la tradition, mais on fait des modifications. Donc le culte n'est plus en latin, il est dans les langues vernaculaires. On permet aux laïcs de faire plus de choses. Bref, une certaine prise en compte de la modernité sans aller jusqu'à tout changer. Donc voilà, c'est les trois grands courants. Oui, vous aviez une question? Ça va? Oui, conservative. C'est juste pour noter, oui, d'accord, j'ai compris. Alors, de même que la foi chrétienne est centrée sur l'événement de la mort et de la résurrection du Christ, je ne vous apprends rien, c'est le centre du Nouveau Testament. La foi juive est centrée sur un même événement de salut qui est la sortie d'Égypte, l'Exode, donc la fête de Pessah, qui est dans 15 jours, comme nous, dans 3 semaines, la fête de Pâques, de Pessah, c'est la fête, vraiment une fête centrale, qui célèbre la sortie d'Égypte. Comme un événement, considère-toi toi-même comme si tu étais toi-même sorti d'Égypte, dit le texte liturgique. Au fond, comme nous on dit, considère-toi comme si tu étais déjà ressuscité avec le Christ. Hein, Paul, à un moment, il écrit ça, hein, « Vous êtes ressuscité avec le Christ ». On dit dire « Ben, pas encore, en fait, hein, moi, je suis un peu malade, enfin, je ne suis pas encore complètement ressuscité ». Bon, donc, mais sachez-le, cette résurrection du Christ nous concerne, nous, ici et maintenant. Voilà. Donc, un événement du passé, de révélation, devient radioactif dans le présent. Et cette inscription dans le temps de la foi se fait d'abord par la célébration du Shabbat, hein, qui dans l'Écriture est à la fois souvenir de la libération d'Égypte et rappel, souvenir de la création du monde. Le Shabbat est une fête qui est à la fois de repos, on va dire, biologique inscrite dans la création, et aussi de célébration d'un événement historique. En gros, la religion juive, c'est un truc assez fascinant à regarder de près d'ailleurs, c'est une religion qui a toujours énormément emprunté à toutes ces cultures environnantes, parce que ça vient d'une zone très petite. Au départ, ça part de rituels agraires, ruraux, cananéens, donc fête des récoltes, fête des pains azim, fête de Soukhot, fête des vendanges, des fêtes agricoles. Donc les fêtes agricoles, c'est cyclique l'année. Et donc c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont un calendrier lunaire solaire, c'est pas comme l'année musulmane, c'est-à-dire que Pessah, c'est toujours à peu près au printemps. Les fêtes d'automne, comme le nom l'indique, sont toujours à l'automne, en septembre, octobre, voilà, chaque année. Et par ailleurs, sur ces fêtes donc rurales, cananéennes, on a greffé à chaque fois un élément historique, de révélation historique. Donc le don de la loi au Sinaï, la sortie d'Égypte. Voilà. Alors, la religion juive, je l'ai dit, est centrée sur la pratique. Ils ont beaucoup mis en avant ce fait, notamment au 19e, au 20e siècle, hein, mais ça a toujours été le cas. Et on peut défendre, enfin, j'ai trouvé des auteurs qui défendent l'idée que le verset le plus important de la Bible pour le judaïsme, c'est Exode 24-7, hein, qui en hébreu, donc à l'alliance au Sinaï, tout le peuple répondit Naaseh Venishma. Hein, alors littéralement, mais nos traducteurs chrétiens sont très embarrassés, nous ferons et nous écouterons. Nous ferons et nous écouterons. Là où un bon rationaliste français dit il faut commencer par écouter pour faire. Donc parfois, vous avez des traductions liturgiques chrétiennes qui inversent carrément la phrase. Nous écouterons et nous ferons. Non, c'est écrit précisément le contraire. Nous ferons et nous écouterons. C'est en faisant qu'on comprend. C'est en obéissant qu'on comprend. Donc, l'action, cette grande importance de l'orthopraxie pour définir qui est dans le judaïsme ou pas. Jacques, frère de Jésus, ça vous dit quelque chose? Jacques, frère du Seigneur, hein, apôtre très important, qui va être chef de la communauté chrétienne de Jérusalem. Donc, il est mort quand, Jacques? Bon, Roselyne, elle sait, mais... En 62, il est martyrisé en 62, pour un motif religieux, on ne cache pas on ne fait pas semblant d'un motif politique, donc il va être lapidé, je crois, si il croit Flavius Joseph, en 62. Flavius Joseph, qui n'est donc pas chrétien, il n'y a pas débat là-dessus, hein, dit que la population de Jérusalem n'est pas d'accord. Enfin, les gens l'aiment bien, il est très pieux, il est souvent dans le temple à prier, et ce sont des juifs chrétiens donc qui pratiquent les commandements. Donc les autres juifs vont dire qu'il n'y a pas de raison ni de les tuer d'ailleurs, ni de les persécuter. Alors je vais vous raconter maintenant, il faut toujours raconter des anecdotes parce que c'est ça que les gens retiennent. Hein. Après les théories, bon. J'ai eu la grande grâce dans ma vie d'accompagner par deux fois le cardinal Lustiger à New York en 2003 et 2004 à la rencontre des communautés juives, toutes les communautés juives de New York. C'était organisé à l'époque par un copain à lui qui était au Congrès juif mondial, qui était une grande organisation juive américaine. Donc, on visitait les différentes institutions universitaires et de formation des Juifs de New York, des trois courants. Et on a eu une soirée avec un rabbin qui s'appelle David Berger, je crois qu'il vit toujours, qui, cette année-là, avait sorti, ou deux ans avant, un bouquin que vous pouvez trouver sur le septième rabbi de Lubavitch. Alors, si vous êtes à Paris, normalement, vous avez croisé, ou vous avez entendu, vous savez ce que c'est que les Lubavitch, quand même. Les Lubavitch, donc, c'est une communauté juive racidique, donc orthodoxe racidique, donc née à partir du XVIIe siècle, XVIIIe siècle, en Europe de l'Est. Je pourrais en parler après, c'est très important. Donc, l'essentiel des racidiques, 90% des racidiques ont été exterminés par les nazis, notamment les plus grandes dynasties, on appelle ça des dynasties. Les catholiques, je dis souvent, c'est un peu comme des ordres religieux. Enfin, il y a des spiritualités différentes, dominicains, cartusiens, bénédictins, jésuites, etc. Donc là, il y a des spiritualités différentes, un petit peu. Mais certaines de ces communautés ont survécu, ont réussi à sauver leur rabbi, qui a réussi à partir à temps, et à survivre aux États-Unis et à se développer. Et c'était le cas des Lubavitch, qui en 1939 n'était pas une communauté très 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 importante. Mais ils ont eu un leader, Rabbi Menahem Schneerson, qui est mort en 94, je crois, 93 ou 94 maintenant, par là, qui avait 85 ou 90 ans, qui a été un leader vraiment incroyable. Et il a pris cette petite communauté et il en a fait la plus grande communauté racidique de loin, et très présente en France, aux États-Unis, en Israël. Et il se trouve qu'à l'époque, il y avait déjà une histoire de guerre du Golfe, on parlait tout ça, qu'il a commencé à tenir des propos les deux dernières années de sa vie, avant sa mort, qui pouvaient être interprétés comme laissant entendre qu'il était le Messie. Et il se trouve qu'un certain nombre de ses partisans ont considéré qu'il allait être le Messie, ou qu'il était le Messie, ou qu'il allait se révéler comme Messie. Bon. Alors, il meurt. Il meurt de maladie, hein, il meurt dans son lit. Mais la réalité messianique ne s'arrête pas. Un certain nombre de ses partisans disent il va ressusciter, il va revenir. En fait, il a tellement de vertus que c'est forcément lui le Messie caché, c'est lui le Messie. Alors, il y a trois positions. Des gens qui disent, bon, on ne sait pas, mais si le Messie vient, ce sera lui. Ceux qui disent, c'est certain, quand le Messie viendra, ce sera lui. D'autres qui disent, non mais n'importe quoi, c'était un grand rabbin, mais il n'est certainement pas Messie. Bon. Du coup, il y a une effervescence messianique dans cette communauté de juifs orthodoxes. Qui par ailleurs, pourquoi c'est très important pour les premiers chrétiens, pratique les commandements. Donc, que faire face à ces gens-là? Le rabbin Berger, orthodoxe américain, dit, il y a un problème. Il y a un problème parce que ces gens-là ont des idées bizarres sur leur rabbi. Parce que non seulement certains disent qu'il est le Messie, mais certains disent qu'il est consubstantiel à la divinité, avec des idées kabbalistiques qu'il y a dans le racidisme. Donc, on se rapproche de la position chrétienne. Et le rabbin Berger commence son livre avec cette anecdote. Bon, il y a dans l'État de New York deux sénateurs, comme dans tous les États américains. Depuis 80 ans, normalement, il y a un catholique et un juif. Les deux communautés principales de New York. Et à l'époque, le sénateur catholique s'appelle Daniel Moynihan, c'est un petit Irlandais, et le sénateur juif, toujours Chuck Schumer, qui est toujours là. Et Moynihan, un jour, raconte Berger, on est dans ces années-là, entre 93 et 99, où il sort le livre, je crois, il va voir un ami rabbin et il dit, écoutez, vous savez, moi je suis un petit Irlandais catholique, bête, hein, moi je connais rien à rien, hein, je vais à l'église, j'écoute ce que me disent les curés, et puis voilà. Enfin, j'avais cru comprendre un truc, c'est que c'est pas possible qu'un Messie meure et ressuscite trois jours après, que c'est une invention bizarre des chrétiens, que quand le Messie viendra, il y aura l'époque messianique, et donc, voilà. Mais maintenant, j'ai des gens dans ma circonscription, monsieur le rabbin, apparemment, ils pensent que leur rabbi est mort, mais va ressusciter, et que c'est lui le Messie, caché pour le moment, mais qui va revenir dans la gloire à la fin des temps. Mais alors, en fait, on peut être juif orthodoxe et croire ça, alors. Alors, le rabbin Berger dit, on doit répondre à la question du sénateur Moynihan. Est-ce qu'effectivement, c'est possible? Est-ce que c'est possible d'être juif, reconnu, orthodoxe, et de croire que quelqu'un qui est mort est le Messie, va revenir, va ressusciter, etc. Parce qu'il dit, alors je viens sur mon point là, orthopraxie, on dit aux chrétiens, effectivement, on les bassine depuis trois siècles, nous sommes une religion de l'orthopraxie et l'orthodoxie ne compte pas. Et Berger, il était face à nous, on était avec des évêques, des cardinaux, il dit, mais enfin, c'est pas vrai. On a quand même quelques idées sur Dieu. Ça existe quand même un peu, la théologie juive. Donc moi, je suis juif, je dis, Dieu, en fait, c'est un marsupilami jaune à poils verts. Il a d'ailleurs sept queues et trois têtes. Là, vous allez dire, mon Toto, vous sortez un peu de l'épure quand même. Non, là, il y a un problème. On ne peut pas dire n'importe quoi sur Dieu, nous dit le rabbi Berger. Il a un peu raison quand même. On ne peut pas dire n'importe quoi. Donc, on doit répondre à la question du sénateur Moynihan. Donc, en fait, cette affaire des Lubavitch a été une crise très profonde parce que lui, il disait, il faut les exclure des Beit Din. Je vois très bien, en l'an 65, certains juifs orthodoxes à Jérusalem qui disent... Les chrétiens ont des idées totalement hérétiques, totalement dangereuses. Et puis il y a Gamaliel qui dit, oui, mais ils sont gentils, ils aident les vieilles dames à traverser au feu rouge, ils apportent des sacs de pommes de terre aux vieillards, ils prient pour leurs veuves. Enfin, ils sont vraiment très sympathiques, ces chrétiens. Ils sont très pieux, ils font de mal à personne. Foutez-leur la paix, c'est des bons juifs. Alors, ils ont des idées bizarres, mais bon, c'est pas grave. Bon. Donc, Berger de dire, voilà, c'est comme ça qu'on laisse un truc démarrer, ça a donné le christianisme, il faut dès maintenant qu'on arrête, qu'on les interdise de Beit Din, qu'on les excommunique, qu'on dit qu'on les marie plus, qu'on dise les Lubavitch, c'est pas possible. Alors, que croyez-vous qu'il arriva ? Dans ce livre, il raconte 10 ans de combat pour faire adopter par le Conseil des rabbins orthodoxes américains une résolution condamnant les Lubavitch. Alors, il a réussi, à votre avis, ou il n'a pas réussi ? Alors, les deux, mon général, parce qu'on est chez les juifs. Alors, il a réussi à faire voter une résolution. Alors, lisez-la sur Internet, c'est à mourir de rire. On est dans les années 97-98. Parce qu'en gros, la résolution, c'est une condamnation du christianisme. Parce que les autres rabbins... Alors, quiconque dit qu'un individu est le Messie, mais ressuscitera après... Enfin, la formulation est calquée sur les chrétiens. Mais Lubavitch dit, non, mais nous, on n'a pas dit ça. On ne sait pas quand est-ce qu'il va ressusciter, c'est vraiment... Donc, il vote une résolution qui semble recondamner le christianisme. Ce qui n'est pas du tout l'objectif, d'ailleurs. Ce qui est absurde, où les Lubavitch disent « on n'est pas concerné », les chrétiens disent « on n'est pas concerné non plus », et du coup, bâton dans l'eau, enfin, échec de... Alors, notre pauvre Rabbi Berger, il était tout dépité. Il dit, voilà, mais enfin, moi, je dis quand même une chose simple, je dis les Juifs, on ne croit pas n'importe quoi. Bon, enfin, j'ai raison, quand même. Mais... L'orthopraxie est telle qu'effectivement, les Lubavitch qui pratiquent les commandements tout pareil, enfin, comme nos juifs devenus chrétiens, jacobites, etc., donc ils croient, ils pratiquent exactement comme les autres juifs, donc foutez-leur la paix. Voilà. Donc, dans le judaïsme dit orthodoxe, alors, il y a, depuis le Talmud, cette affaire des 613 commandements. Alors, pourquoi 613 ? 365 négatifs pour les 365 jours de l'année. 248 positifs, car y aurait-il, selon eux, 248 os dans le corps humain. L'idée étant qu'on sert Dieu tout le temps et par tout son corps. Donc c'est vraiment l'idée. Toute la vie doit être avoda, doit être liturgie, doit être service de Dieu. Alors, certains commandements ne peuvent se vivre que sur la terre d'Israël. Donc j'y reviendrai parce qu'il y a un lien consubstantiel entre la religion juive et la terre d'Israël. Terre d'Israël, voilà, j'arrive sur le dernier point de la première page. Alors, la terre d'Israël, ce lien est voulu par Dieu et a une valeur religieuse. Comme dit Monseigneur Étienne Véteux, ça me fait tout drôle parce qu'on a été collègues, profs ensemble, et maintenant il est évêque, mais bon, évêque auxiliaire de Reims, on lit à la messe régulièrement les promesses de la terre, on entend que Dieu promet une terre, et on ne se demande pas, comme chrétien, mais pourquoi Dieu parle d'une terre ? Non, après tout, il pourrait donner le décalogue. La question des enfants de 8 ans au catéchisme, mais pourquoi Dieu ne donne pas sa loi à tout le monde, puis on évite ces bizarreries d'élection, d'Israël, de terre, etc. Bon. Pourquoi ça passe par une terre ? Il faut qu'on entende ça, parce que ça passe par une terre. Alors, une terre qui, par ailleurs, a des frontières que je vous mets au défi de me donner, parce qu'elle varie tout le temps, d'une part, et deuxièmement, même à l'intérieur de territoires qui pourraient être considérés comme vraiment le noyau du territoire israélite, il y a des populations non-juives, non-israélites, avec lesquelles on vit en parfaite intelligence. Les Gabaonites, les Jébusites, les Pérusites et autres peuples, les Kénites, etc. Notamment la ville de Jérusalem, comme vous savez, n'a pas été conquise par la force, mais par la ruse, et dans le deal qui a été fait, la population autochtone a pu rester. Cohabiter avec les Hébreux pendant un certain temps. Et par ailleurs, alors on peut dire, le lien à cette terre est très fort, et par ailleurs, et c'est ça ma grande angoisse, comme beaucoup de Juifs de la diaspora par rapport à Israël, quand vous vous comportez mal, la terre vous vomit, petit a, ou vous êtes envoyé par Dieu en exil. L'exil, c'est quand même la punition pour les péchés du roi et du peuple. Alors, massacrer des enfants innocents, si je prends l'exemple de Gaza ou de ce qui se passe au Liban, tout dans la vie se paye. C'est la sagesse humaine. Tout se paye. Dieu tient compte de tout. Fin du livre de Jonas. Il y a dans cette ville 100 000 enfants qui ne distinguent pas leur droite de leur gauche et je ne serai pas leur Dieu. Donc, beaucoup de juifs, religieux et non religieux, sont atterrés de la politique que mon ami Boyarine appelle néo-asmonéenne de l'État d'Israël, politique de puissance et de conquête, basée sur la force militaire, et qui n'a pas peur des dégâts collatéraux, parce que ça aura des conséquences graves. Alors, bon, c'est un sujet sur lequel j'ai eu à m'exprimer. Il se trouve qu'il y a 3 ans maintenant, il y a eu un grand colloque à l'Angelicum, à Rome, donc l'université des Dominicains, co-organisé par Étienne Veteux, et un très très sympathique professeur de théologie catholique anglais qui s'appelle Gavin D'Acosta. Charmant, mais vraiment, vous prenez le thé avec lui, charmant, monsieur Charmant. Alors, il se trouve que depuis 20 ans, il s'est un peu un spécialiste du dialogue interreligieux, et depuis 20 ans, il s'est un peu spécialisé sur la théologie catholique d'Israël. Et alors, il a élaboré depuis 10 ans quelque chose qui plaît beaucoup à beaucoup de juifs sionistes, ou israéliens, ou les organisations consistoriales, ou les organisations juives officielles, qui est qu'il demande que l'Église catholique reconnaisse la légitimité théologique de l'État d'Israël. Attention, hein. Le Vatican, quand il a reconnu l'État d'Israël en 1993, quand Jean-Paul II a reconnu, a pris bien soin de préciser dans le préambule que c'était une disposition pragmatique d'ordre étatique, que ça n'impliquait pas de jugement théologique. Bon, les Juifs étaient quand même très contents, à juste titre, mais disons que si on dit à un catholique « Est-ce que l'État d'Israël est voulu par Dieu ?», il ne peut pas répondre en tant que catholique, par une consigne, à cette question. Donc, D'Acosta proposait que ce soit qu'on aille dans cette direction. On est avant le 7 octobre. Hein. Attention, très important. Évidemment. Et Étienne Veteux me dit, donc on se connaît depuis 25 ans, me dit, écoute, j'ai besoin de quelqu'un qui aime bien les Juifs, mais qui là me fasse la critique de cette position. Ils disent non. Donc j'ai fait le papier. En disant, je ne pense pas qu'on le puisse et qu'il le fasse et qu'il le fasse et qu'il le faille. Reconnaître la légitimité logique. Pour une bonne raison. D'abord, c'est qu'en tant que catholiques, nous ne reconnaissons aucun fait historique comme voulu par Dieu depuis 70. Je dis, le petit débat qu'on peut avoir, c'est sur la destruction du Temple. Mais depuis, que ce soit Constantin, Charlemagne, les croisades, l'État du Vatican, les accords du Latran, vous pouvez nommer ce que vous voulez, on prend ça d'un point de vue historico-pragmatique. Donc, pendant 60 ans, on a hurlé qu'on volait les états de l'Église et que c'était un scandale. Ben maintenant, on est très content. Hein. L'état du Vatican, 44 hectares, avec des ambassades, ça nous va très très bien. Tout d'un coup, bon. Donc, on n'affirme rien comme voulu par Dieu directement en histoire. D'autant plus que, et on revient à la Bible, là, c'est un point qu'on peut discuter avec des amis juifs, ça. La promesse de la terre... Il y a des formulations inconditionnelles et des formulations conditionnelles. Mais il est clair, en gros, s'il y a une chose qu'on retient de la Bible, c'est que Dieu s'adapte à nous. Dieu tient compte de notre comportement et de nos réactions. C'est exprimé dans un langage très bizarre pour nous, surtout les chrétiens, c'est que Dieu se repent. Vous savez que le sujet du verbe se repentir dans la Bible, 2 fois sur 3, c'est Dieu. Dieu se repentit d'avoir créé l'homme, Dieu se repentit d'avoir choisi sa vie. Dieu, il change d'avis, il se repent. On dit, mais quand même, c'est bizarre, le Dieu qui sait tout, là, omniscient, à l'envers, à l'endroit. Pourquoi il choisit Saül, qui est une planche pourrie, au lieu de choisir directement David? C'est quand même bizarre. Donc, le jeu entre la liberté humaine et la liberté divine, elle est centrale dans la Bible. Donc Dieu, il est respectueux de notre liberté. Ce qui veut dire que le même Dieu qui a donné la terre peut envoyer en exil. Ce n'est pas parce que j'ai donné la terre que je ne vais pas non plus. Hein, comme disent les prophètes, je répète, c'est le mont Sion, c'est le mont Sion, Dieu nous a élus, Dieu nous a élus, donc il ne nous arrivera rien. Ben si. Donc, pour revenir sur le point précis, le jugement théologique comme catholique que nous avons sur l'État d'Israël, il ne va pas être le même en 1948, en 1966, en 1973 et en 2026. Ce n'est pas le même, parce que ce n'est pas le même État derrière. Quand vous avez une petite communauté qui se défend contre les attaques de 5 armées et qui avait accepté un partage en 2 de la terre en 1948, on peut dire, bon, ben c'est pas mal ça, c'était quand même un compromis intéressant. C'est pas l'Israël qui, en 1967, occupe les territoires occupés. Il y a un grand penseur religieux israélien que je vous invite à lire, il y a 3 livres traduits en français, qui s'appelle Yeshayahu Leibovitz, Isaïe Leibovitz, un grand, 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 grand monsieur, vraiment, un des plus grands penseurs, pour moi, du XXe siècle, au plan religieux, si c'est quelque chose qui vous secoue, mais qui vous secoue positivement, Leibowitz, dans Maïmonidien classique, il vit en Israël, il s'est, dès le début, prononcé très clairement contre l'occupation des territoires, de manière très nette, allant à la fin de sa vie jusqu'à employer des expressions très dures, en disant c'est une occupation nazie, le gouvernement se comporte comme les nazis. Bon, nous, on ne peut pas le dire, mais un juif peut le dire. Bref, il allait très très loin dans la dénonciation de l'occupation. Et quand on lui demandait, dans les années 80, il y a un livre célèbre d'entretien, Israël, ma part de vérité, sachant qu'il n'est pas dans la diaspora, il n'est pas comme Boyarin à quitter Israël. Lui, il vivait en Israël. On lui dit, mais monsieur Leibowitz, quand est-ce que vous avez réalisé que l'occupation des territoires, c'était une mauvaise chose, que ça allait détruire Israël de l'intérieur? Et il répondait, le jour même. Ça m'a pas pris longtemps, il a dit. À partir du moment où l'on se rendait occupant, dominant d'un autre peuple, on allait vers la catastrophe. Un jugement spirituel et théologique. Alors, là j'avais un petit paragraphe sur les trois serments. Oui, il y a un petit livre qui existe en français que je vous recommande, qui s'appelle « L'opposition religieuse au sionisme » d'un Canadien qui s'appelle Rapkin, qui rappelle que la position du Talmud et des juifs orthodoxes, c'est toujours le bas de la page 1, les trois serments. Quelques éléments de présentation du judaïsme en bas. Hein. Les juifs religieux ont toujours été contre le sionisme, massivement, totalement, du 19e, on va dire, jusqu'à 1967. Alors, la petite exception, ça serait le premier grand rabbin d'Israël, le Rav Abraham Kook, qui arrive en Israël au moment de la Première Guerre mondiale. Mais lui, il va en Israël pour dire il faut quand même qu'au milieu de ces mécréants, il y ait un peu un ou deux personnes qui essayent de rappeler un peu la foi. Bon. Il a pas une position très dogmatique sur l'État. Et donc, le Talmud a formalisé ça. On ne doit pas revenir sur la terre d'Israël par la force, en masse, comme une muraille, dit le texte, et en opprimant les autres. Seul le Messie nous ramènera sur la terre d'Israël. Tout retour massif, politique, militaire sur la terre d'Israël va contre Dieu. C'est une opposition à Dieu, c'est un blasphème. Si toi, juif individuel, ce qu'ont fait tous les juifs depuis 2000 ans, tu prends ta retraite et tu décides d'aller acheter une petite maison à Safed, il n'y a pas de problème. Tu vas voir les Ottomans, tu vas voir les musulmans ou les croisés, tu dis voilà, est-ce que je peux habiter là? Pas de problème. Là, si tu fais ça comme une personne privée, pour gagner du mérite de vivre sur la terre d'Israël, c'est très bien, c'est très très bien. Mais y aller de manière politico-militaire en puissance, c'est interdit. Et c'est ça qui a changé, puisque maintenant nous avons des juifs religieux sionistes. C'est le courant qui occupe les territoires, ce qu'on appelle le courant national religieux, le Gush Emunim, le bloc de la foi, tous ces gens-là, enfin les colons des territoires. Ce n'est pas les gens de Mea Shearim, hein, ce n'est pas les ultra-orthodoxes de Jérusalem qui, eux, sont contre l'occupation des territoires, plutôt pour la paix et même pour un accord territorial. Moi, je me tue à dire depuis 20 ans aussi aux catholiques, n'oubliez pas que les plus durs en Israël contre les Palestiniens, c'est la droite laïque. Begin, Sharon, Netanyahou, c'est des gens qui sont religieux comme moi, je suis javanais. Ils n'ont rien à foutre. C'est les héritiers du fascisme juif, Meir Zabotinsky, donc un juif polonais dans les années 30, qui était l'opposant à Ben-Gourion, avec des chemises, je ne sais pas quelle couleur elles avaient, mais il avait aussi ses chemises, tout le monde avait ses chemises, hein, vertes, brunes, beige, enfin, même l'anglais, là, le fasciste anglais, il avait ses chemises aussi, musulman, enfin, bref. Donc chacun avait ses chemises. Donc, politique, on va dire, de droite nationaliste, de puissance, pure et simple. Voilà, un bon arabe est un arabe mort, comme diraient les Américains en Amérique. Un bon indien est un indien mort. Bon, donc, occupation, pure et simple. Pas du tout religieux, pas du tout croyant. Actuellement, les diables dans le gouvernement de Netanyahou, donc Bezalel Smotrich et Ben Gvir, les deux ministres très, 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 très durs, ils ne sont pas religieux vraiment. Hein. C'est des nationalistes de droite de base. Je peux continuer encore? Ça va? Vous supportez ou... On pourra faire une pause. Hein. Oui? Coupure question. Roselyne, tes désirs sont des ordres. Alors, quelques questions. Voilà. Faut commencer par des questions d'explicitation. Voilà. Qui ne te lance pas trop dans le débat, mais allez-y. Toutes les questions sont bonnes, hein. Les réponses, on peut discuter, mais... Est-ce qu'il y a des choses qui n'étaient pas claires ? Alors, le sionisme, c'est un mouvement nationaliste européen du XIXe siècle qui applique à la communauté juive ce que font les nationalités dans l'Empire austro-hongrois, dans l'Empire russe. Il faut qu'il y ait un État des Slovaques, des Polonais, des Croates, donc c'est un nationalisme. Il y aura un État des Juifs, donc comme notre terre, c'est Sion. Et vous savez qu'Herzl, il était prêt au départ à accepter l'Argentine, l'Ouganda. Bon. Enfin, l'idée, c'est qu'il y ait à chaque commune, à chaque peuple, une terre. Donc nous, notre terre, c'est la terre d'Israël, qui est à l'époque une vaste province de l'Empire ottoman. Et donc, vu que nous sommes persécutés en Europe, faut comprendre là notre responsabilité pour les Français, quand même. On porte une lourde responsabilité, parce que 89, c'est nous, et l'affaire Dreyfus, c'est nous. C'est-à-dire, quand Herzl, juif autrichien, qui a connu les campagnes antisémites du maire de Vienne, mais il dit, bon, la France, c'est la France, c'est les droits de l'homme, comme Dieu en France, le pays où les Juifs sont heureux, c'est la France. Et puis, il réalise que, ben, en France, il y a un antisémitisme, au sens strict, farouche, alimenté par l'Église catholique notamment, mais pas que, et par la droite de l'époque, la droite bonapartiste, la droite royaliste. Donc, il y a une série un peu glaçante, puisque je suis assez série là, qui s'appelle Paris Police 1900. Certains ont vu Paris Police 1900 avec le préfet Lépine et tout. Donc, on est vraiment au moment de l'affaire Dreyfus. Et donc, le scénario s'inspire de ce qu'il y avait à l'époque. Donc, il faut voir ce que les gens disent dans des meetings publics à Paris sur les Juifs. À Paris. Donc, Herzl, il se dit, il faut qu'on fasse un État pour nous, parce qu'on ne va pas arriver à survivre en Europe. L'antisémitisme est trop fort. Et donc, voilà. Donc, le sionisme est un mouvement pas religieux, on va dire de gauche, plutôt, qui va à un moment générer sa branche de droite, Jabotinsky, mais qui est complètement minoritaire pendant 100 ans. Et donc, Ben Gourion, qui fonde l'État d'Israël en 1948, c'est un, j'allais dire, c'est un socialiste de type de l'époque, comme il y en avait en France, en Allemagne ou en Pologne. Oui. 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 Absolument. Ça, c'est un des points très importants pour comprendre la géopolitique actuelle. Il y a deux faits. Le premier point, 90% des Juifs du monde ne vivent plus en Europe. Ça, c'est complètement nouveau depuis 1939. Mais ils vivent dans deux pays seulement, les États-Unis et Israël. Pour la première fois depuis 4 ans, 51% des Juifs vivent dans l'État d'Israël, au monde. C'est complètement nouveau dans l'histoire. Depuis, il faut remonter à moins 300, peut-être, pour avoir ce type de proportion. Parce que déjà, au temps de Jésus, il y a beaucoup plus de Juifs qui vivent en dehors de la terre d'Israël que de Juifs qui vivent sur la terre d'Israël. Et par ailleurs, dans les renouveaux spirituels protestants américains, s'est créée une forme de protestantisme dispensationaliste dans lequel ils ont un scénario de la fin des temps dans lequel il faut que tous les Juifs reviennent sur la terre d'Israël et l'autorité totale sur toute la terre d'Israël. Ensuite, il y aura la vraie bataille d'Armageddon entre Gog et Magog, etc. Et là, tous les Juifs Jésus reviendra, tous les Juifs se convertiront à Jésus, ce sera la fin du monde. Et donc, ils font exactement ce que le Nouveau Testament nous dit de pas de faire. Ils ont un scénario dans lequel, alors, il faut que tous les Juifs aillent en Israël, ça c'est très très bien, parce que ça accélère la rédemption. Dans les années 80-90, il y a un certain nombre de rabbins, dont un qui s'appelle Eckstein, attention, pas Epstein, mais Eckstein, le rabbin Eckstein, qui a noué des liens très forts au Texas avec les communautés évangéliques. Alors, sioniste, c'est un peu entre guillemets, parce que ce n'est pas eux qui vont aller à Sion. Mais disons, c'est des gens, pour le coup, qui défendent la légitimité religieuse du sionisme. Et c'est purement instrumental. Hein. Tout ça finira très très mal pour les Juifs, de toute façon. C'est juste une étape dans la venue du Christ. Donc, eux, ils financent beaucoup et ils soutiennent complètement. Dans le gouvernement américain actuel, il y a des gens qui sont proches de ces positions. Voilà. Donc, ils ont toujours été, pour des catholiques, complètement bizarres et complètement, clairement, hérétiques et non défendables, mais puissantes. Autre question ? Ah, voilà une bonne question. J'ai un truc sur les dates majeures de l'histoire juive. Un des grands mystères de l'histoire juive, c'est que le centre du judaïsme de 480, qu'est-ce qui s'est passé en 480 325, suppression du patriarcat, l'exilarque de Babylonie prend le relais. En fait, l'empire chrétien devient de plus en plus dur contre les juifs, qu'on va toujours suspecter d'ailleurs d'être une cinquième colonne pour les Sassanides, pour nos adversaires à l'est, les Perses et les Sassanides. Donc, c'est la Babylonie, là où est fait le Talmud. Et les grands gaon, les géonimes, les grandes autorités sont en Babylonie. Donc, comment se fait-il qu'entre 960 et 1060, le barycentre du judaïsme passe de la Babylonie à l'Allemagne? Ah, c'est un grand moment de l'histoire juive. Donc, en fait, il y a plusieurs facteurs qui ont joué. En fait, quand vous regardez l'histoire juive, vous avez des déplacements est-ouest impressionnants au cours des 2500 dernières années. Donc, de temps en temps, le centre est complètement à l'est, à l'ouest, etc. Je pense qu'on peut dire qu'au temps de Jésus, le vrai barycentre, le vrai dynamisme spirituel, c'est le judaïsme hellénistique. C'est vraiment Alexandrie, plus que la Babylonie. Il y a des juifs en Babylonie, ils vivent bien, il y a des synagogues, pas de problème. Mais la puissance vraiment intellectuelle, spirituelle et numérique, elle est grecque. Ensuite, à cause du christianisme, ça va basculer de nouveau en Babylonie. Et au XIe siècle, ça bascule en Europe. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que les vrais responsables sont les musulmans. C'est-à-dire qu'en fait, tant en Andalousie qu'à Bagdad, arrivent au pouvoir des califes qui commencent à persécuter les juifs, sérieusement. Et les juifs qui se trouvaient plutôt pas mal sous la domination musulmane, jusque-là, tout d'un coup vont se trouver mieux dans les terres chrétiennes. Ça va être décisif dans la Reconquista en Espagne, d'ailleurs. Dans les années 1140, un certain Samuel, qui est le chef de l'armée musulmane. Un juif est chef de l'armée musulmane. C'est un des rares cas dans l'histoire de l'islam. Samuel a quelque chose, Anassi, quelque chose comme ça. Et ça va me revenir. Et tout d'un coup, au moment où les chrétiens essayent de résister, commencent à s'organiser, vous savez, arrivent des berbères musulmans d'Afrique, très fanatiques, on voit ça dans le film Le Cid, et qui, eux, commencent aussi à persécuter les juifs, et les juifs passent du côté chrétien. Ça va être décisif pour la victoire chrétienne à terme, parce qu'ils arrivent avec leurs compétences juridiques, de gestion, etc. etc. Voilà. Et ça va être aggravé en Babylonie par l'arrivée des Mongols, qui vont détruire à peu près tout, y compris les juifs. Donc il y a un basculement. Donc on va appeler... Donc le judaïsme bascule complètement en Europe, tant Espagne que Allemagne. Donc là, il y a ce qu'on appelle la synthèse judéo-espagnole, donc du XIe au XVe siècle, extraordinaire, qu'on ne peut comparer qu'à Alexandrie, enfin, extraordinaire synthèse spirituelle qui a nourri aussi le catholicisme via le renouveau spirituel de Castille au XVe siècle, qui est nourri par beaucoup de conversos, de juifs devenus chrétiens. Moi, je peux vous parler de ça jusqu'à demain matin, parce que j'ai travaillé ça. Et puis, il va y avoir la synthèse judéo-allemande, extraordinaire aussi, 18e, 19e, début 20e. Les catholiques expulsent les juifs d'Espagne en 1492, séfarade, ça veut dire depuis le Moyen-Âge, Espagne, pour les juifs, ils ont pris trois mots d'Ovadia, donc Ashkenaz veut dire Allemagne, séfarade veut dire Espagne, et Tsarfat veut dire France. Tsarfati, ça veut dire le français. Tsarfati. Donc, ces Espagnols vont aller au Maroc, à Istanbul, à Thessalonique, à Safed, en Galilée, en Égypte, en Libye, partout, et ça va donner ce qu'on appelle le judaïsme séfarade. Donc, il y a un piège là. Le judaïsme séfarade, il a deux composantes. Des gens qui ont été en Europe avant, qui parlaient encore espagnol en 1939, le ladino, et des juifs yéménites, arméniens, azéris, perses, égyptiens, libyens, qui n'ont jamais quitté, qui n'ont jamais été en Europe, qui sont restés dans le monde arabe, arabo-musulman. Mais par paresse ou par convention, on va appeler tous ces juifs-là, maintenant les séfarades, et tous les juifs d'Europe, même s'ils ne sont pas allemands, de la Russie à la France, Ashkenaz. Ça va ? On fait une pause ? Ce serait temps quand même, non ? Qu'est-ce que vous en pensez? Pause de 5 minutes, aération.